C'est pas du vent. C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, François Porcheron.
Bonjour, une grande révolution culturelle s'annonce. Demain, nous ne mangerons plus de produits d'origine animale. Ça vous semble dingue? Eh bien, pour Thomas Le Pelletier, historien et philosophe des sciences, c'est une évidence. Il nous dévoilera ses arguments exposés dans son dernier livre, La Révolution Végétarienne, publié chez Accent Aigu. Vous serez surpris, ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent.
Fais remplir même à tribord. Il n'y a même plus une place là où il y a un petit morceau de caca qui peut vraiment rentrer. Il n'y a pas de place.
Mais vous l'utilisez encore?
Mais il y a certaines personnes, quand ils sont encablés, surtout les femmes. Nous, les hommes, on s'en fout. Hein. On est obligé de faire la cascade, d'aller dans les poubelles, par-ci, par-là.
Et quand il pleut?
Et quand il pleut, mais ça s'inonde ici. La chiotte flotte un peu par-ci, par-là et tout, vous voyez un peu.
Il n'y a pas de toilette. Les gens font souvent des selles dans des sachets. Après, ils viennent jeter dans le canal.
La galère ici.
La galère totale.
Et oui, cette galère totale, c'est pour 2,5 milliards de personnes, soit plus d'un tiers de l'humanité qui n'ont toujours pas accès à des toilettes décentes comme ici à Port-Gentil, au Gabon. Nous vous en parlons souvent dans C'est pas du vent. C'est une priorité qui intéresse malheureusement peu les politiques. Alors Terra Eco, le magazine qui change le monde au quotidien sur Internet et mensuellement en kiosque, en fait sa une ce mois-ci. Bonjour François Meurice.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Terra Eco qui provoque hein, quand même à la une en ce début d'année avec une photo de toilette sous-titrée « L'invention du 21e siècle ».
Oui, on a fait ce choix d'une une à la fois très simple, juste une cuvette toute blanche sur un fond noir, avec ce gros titre, donc l'invention du 21e siècle, tout simplement, comme vous le rappeliez, parce que plus de 2,5 milliards d'humains n'ont pas accès à cette invention toute bête qui a déjà un certain nombre d'années. Et c'est vrai que c'est une invention auquel on ne pense pas, nous, habitants de Paris, habitants des pays du Nord, on n'y pense pas, et pourtant c'est un enjeu fondamental, un enjeu sanitaire, un enjeu social.
Alors les conséquences sont nombreuses et énormes. Alors les conséquences sociales tout d'abord, alors il y a un zoom hein, dans votre magazine, un reportage sur les Indiens qui sont obligés de ramasser du coup les déjections humaines, parce qu'un Indien sur deux aujourd'hui défèque à l'air libre.
Exactement, un Indien sur deux, et donc évidemment il faut ramasser ces selles qui sont dans la rue, qui sont derrière parfois des toilettes publiques mais qui ne sont pas ouvertes la nuit, ce genre de choses. Donc il y a plus d'un million d'intouchables qui ramassent, dont c'est le métier, qui ramassent ces selles toute la journée, toute la nuit et au petit matin. Évidemment c'est un métier très dégradant, c'est un métier très difficile, un métier très dangereux aussi puisqu'on attrape des maladies, et il s'avère aussi que c'est un métier interdit officiellement depuis 1993, et donc ce sont les castes les plus basses et les intouchables qui font ce métier.
Alors c'est aussi l'une des causes majeures, hein, cette absence de toilettes, du décrochage scolaire des jeunes filles, puisque l'UNICEF explique qu'il y a quand même 272 millions de journées d'école qui sont manquées chaque année à cause de cette impossibilité de s'accroupir à l'abri du regard des camarades.
Exactement, et notamment à partir de quand les jeunes filles ont leurs règles, à l'âge des règles, elles n'osent plus aller à l'école car elles ne peuvent pas aller se cacher quelque part pour faire leurs besoins.
Alors on refuse souvent de se pencher sur la question, mais nos déjections sont aussi des vraies bombes sanitaires.
Évidemment, on a fait un petit zoom dans ce numéro, dans ce dossier, sur ce que contenait un gramme de matière fécale. On va y trouver environ 100 œufs de parasites, on va y trouver 1000 kystes de protozoaires, c'est des mots un peu compliqués, mais ça veut dire que là-dedans il y a des amibes, on va trouver jusqu'à 10 000 virus, on va trouver jusqu'à 1 million de bactéries. Alors c'est sûr que toutes ces petites bestioles à l'intérieur de ces matières fécales vont disparaître assez vite, en 24 heures par exemple pour le choléra, sauf qu'en 24 heures, comme le rappelle un membre d'une ONG, en 24 heures il peut se passer beaucoup de choses, et ce virus peut évidemment se déplacer des selles jusqu'aux assiettes notamment.
Alors 2 milliards de terriens, soit près d'un tiers de la population mondiale, hein, vit avec des parasites intestinaux. On peut vivre hein, avec des vers intestinaux, mais la diarrhée, elle fait moins de cadeaux, puisque chaque année, il y a 1,8 million de personnes qui en meurent. Ça tue près de 5000 enfants par jour. Donc, on se dit que c'est une priorité sanitaire, une priorité politique, et pourtant, eh bien, les politiques ne semblent pas trop s'y intéresser. Alors, heureusement, il y a des citoyens qui prennent le problème à bras-le-corps. Par exemple, à Nairobi, Nairobi, l'une des plus grandes capitales d'Afrique, au Kenya, donc avec plus de 3 millions d'habitants, David Kouria a lancé l'initiative Eco Toilette. Le principe, c'est installer des toilettes publiques dans le centre-ville, mais aussi dans les bidonvilles pour pallier l'absence de services publics dans ce domaine. Aujourd'hui, 40 Eco Toilettes ont été installées dans 12 municipalités kenyanes, avec la création d'une centaine d'emplois stables et plus de 300 000 personnes bénéficient désormais de ces services innovants. C'est un reportage de Stéphanie Braqueuet.
Où sommes-nous ici?
Donc ce sont les toilettes, comme vous pouvez le voir, il y en a trois ici dans la section des femmes. Vous pouvez voir que cela se compose de toilettes à la turque. Comme nous sommes chez les femmes, il y a aussi une poubelle hygiénique et il y a aussi une douche. Ah, et désolé, il doit y avoir quelqu'un. Ensuite, il y a des toilettes pour les personnes handicapées. On peut venir avec sa chaise roulante. Contrairement aux toilettes turques, ici, il y a un siège. Cela aide les personnes handicapées à utiliser les toilettes plus facilement. Là, ce sont les lavabos pour pouvoir se laver. On a beaucoup d'eau de pluie, cela permet de se laver les mains. Le but est de faciliter l'accès aux toilettes, car ici, dans les bidonvilles, les gens ont rarement une douche à la maison ou des sanitaires. Donc, ici, il y a tout ce qu'il faut, même un miroir, vous voyez.
Ce petit bâtiment en dur, au sol carrelé, situé à l'entrée du bidonville de Kaungware à Nairobi, contraste avec les habitations alentour, faites en bois, surmontées de toits en tôle. La circulation est intense et la fumée qui sort du pot d'échappement des voitures se mélange avec la poussière qu'elle soulève. Nous sommes avec Arnold Mwangi, employé de l'entreprise Ecotact, dont le directeur David Kouria a inventé ce concept de toilette baptisé Eco Toilet. Avant sa construction, le seul moyen de faire ses besoins était de se loger au bord de la route, derrière un mur. L'habitude a été prise par beaucoup d'uriner le long de la barrière qui entoure l'école primaire juste à côté. Phyllis est professeure de maternelle et elle a vécu le changement de près.
Vous savez, avant cela, à l'école, cela sentait vraiment mauvais. C'était même inconfortable dans les classes, cela sentait. L'odeur venait depuis la barrière jusqu'à l'école. Maintenant, c'est vraiment mieux. Il faudrait ajouter des toilettes dans d'autres endroits.
À côté de l'entrée d'Eco Toilette, un groupe d'hommes est assis. C'est devenu le rendez-vous des conducteurs de Matatu, ces autobus de 15 passagers à Nairobi. Quand ils attendent une nouvelle journée de travail, ils se postent ici.
Vous savez, les gens, en fait, surtout les hommes sous, ils urinent partout. Ils peuvent même uriner ici, dans la rue. Eco Toilette, c'est vraiment une bonne idée. Regardez, même les fleurs, maintenant, poussent mieux. Avant, vous auriez dû voir, au lieu d'être vertes, elles étaient jaunes. Eco Toilette, c'est vraiment malin. C'est même mieux que les toilettes qu'on utilise chez nous. Une parcelle contient environ 20 maisons, et il y a une ou deux toilettes pour 20 maisons, c'est-à-dire une centaine de personnes. Eco Toilette a vraiment fait du bon boulot.
David Kouria, fondateur d'Eco Toilette et directeur de la société Ecotact.
La situation dans les bidonvilles fait peur. Il y a une très forte densité de population. Dans certains endroits, les gens pratiquent la défécation à ciel ouvert. Ailleurs, il y a des toilettes volantes, c'est-à-dire que les gens défèquent dans des sacs en plastique et les jettent. Et il y a des endroits où il n'y a absolument pas de toilettes du tout. L'idée de Eco Toilette, c'est comment se mettre à penser que les toilettes ne sont pas seulement là pour faire ses besoins. Vous pouvez aller aux toilettes pour acheter le journal, ce qui du coup veut dire que la vente du journal subventionne l'utilisation des toilettes. Pour moi, c'est comme un point de sociabilité, une signature dans la ville à laquelle les gens peuvent se référer, parce que c'est pratique, c'est commode.
Avec une pauvreté extrême et un chômage important, certaines personnes n'ont même pas de quoi payer les 5 shillings à Kaungware, soit 5 centimes d'euros pour aller aux toilettes. Mais cela fait partie des calculs de David Kouria. Les toilettes installées en centre-ville sont, elles, très rentables et compensent les installations dans les bidonvilles. Emilia, la caissière.
Quelqu'un qui a un petit commerce dans le coin ne peut pas toujours se permettre de payer les 5 shillings. Parfois, ils payent une fois et reviennent, sans argent, mais moi je les laisse entrer.
Ecotoilet connaît un succès de plus en plus grand. Au Kenya, 50% de la population n'a pas accès à des sanitaires. Une quarantaine de toilettes ont été installées dans tout le pays, avec 5 millions d'utilisateurs pour 2010. Et le projet attire de nombreux autres pays d'Afrique, Ouganda, Tanzanie, mais aussi Madagascar et Ghana.
C'est pas du vent.
François Meurice, quand on entend ce reportage de Stéphanie Braguet, on se demande finalement pourquoi il n'y a pas plus d'initiatives dans ce domaine. Alors, il y a des freins culturels et puis des freins politiques.
Oui, alors les freins culturels, on les aborde un petit peu dans ce dossier de Terra Eco. Parfois, dans certaines régions, enfouir ses excréments, c'est considéré comme un sacrilège. C'est la terre des anciens, par exemple. Il y a d'autres freins dans des camps de réfugiés, par exemple. Imaginez que hommes et femmes ou que adultes et enfants puissent déféquer au même endroit n'est pas accepté par certaines communautés, mais il y a effectivement encore plus de freins politiques parce que tout simplement ce n'est pas très glamour, pas très sexy pour un politique de poser devant une simple cuvette de toilette.
Voilà, alors on préfère poser devant par exemple une fontaine d'eau.
Exactement,
ou des choses comme ça.
C'est tellement plus joli.
En 2008, 32 pays africains s'étaient engagés par la déclaration d'Etekwini à consacrer 0,5% de leur produit intérieur brut à l'assainissement. 6 ans plus tard, on en est où ?
On en est malheureusement très loin. En 2008, on comptait qu'à ce rythme-là, seuls 6 pays africains auraient atteint les objectifs en termes d'assainissement. Aujourd'hui, on compte que si ça continue comme ça, ça sera le cas dans quelques dizaines d'années. Donc évidemment, on est très loin du compte.
Là, vous parlez notamment des objectifs du millénaire pour le développement qui visaient à ce que la moitié de la population ait accès à un assainissement correct d'ici 2015. Et là, on n'est absolument pas du tout dans les clous. Alors, la fondation du milliardaire Bill Gates a investi en octobre dernier dans les toilettes, $1 million dans des projets de recherche. Il y en a de plus en plus quand même, heureusement ça pullule, mais il faudrait que les politiques vraiment s'investissent sur ce sujet-là, et vous le dites aussi dans votre dossier.
Oui, et en plus c'est rentable. Dans la déclaration d'Etekwini, les pays africains s'étaient engagés à investir 0,5% de leur PIB. Malheureusement, donc encore une fois, ils n'y sont pas arrivés, et pourtant ce problème d'assainissement leur coûte 1,5% de leur PIB. On voit bien, c'est assez simple, hein, le calcul. On investit 0,5% et on le fait pas. Et du coup, on paye 1,5%.
Voilà, avec les conséquences dont on a parlé tout à l'heure. Et les calculs de la Banque mondiale indiquent $1 investi dans des toilettes en rapporte directement 5 en économie de soins de santé et à la famille qui les a construites. Alors donc ça, c'est le dossier principal de Terra Eco. Mais il y a aussi un portrait que vous consacrez à un article, donc à Gunther Paoli, qui arpente la planète pour traquer tout ce que l'on pourrait imiter de la nature. On l'a reçu aussi dans C'est pas du vent. Mais ça fait quelques mois qu'on n'a pas eu de ces nouvelles, alors.
Mais Gunther Paoli, il continue. Hein. C'est un globetrotteur infatigable, cet entrepreneur belge. Il continue à arpenter la planète pour voir où sont les éco-innovations. Et comme il a un pool de 3000 chercheurs qui est derrière lui, dès qu'il repère avec sa fondation Zeri une éco-innovation qui lui semble intéressante, il lance ses 3000 chercheurs pour voir si c'est scientifique, si c'est industriellement possible de le développer. Et parfois, ça marche.
Oui, alors il a par exemple conçu un chauffe-eau solaire photovoltaïque à double face en Suède, fabriqué un gel antibiotique à partir de baves d'asticots élevées en Afrique du Sud, créé un papier pierre sans eau à partir de déchets miniers à Taïwan et construit aussi des logements sociaux en bambou. Enfin, la liste est longue puisqu'il y a plus de 200 innovations. Et on apprend par exemple le secret du zèbre grâce à Gunther Paoli.
Oui, puisque donc cette fondation s'appuie toujours sur des innovations entre guillemets, ou sur le génie de la nature. Donc le secret du zèbre, c'est tout simple, c'est que les lignes noires du zèbre attirent la chaleur, les lignes blanches la repoussent. Donc c'est très bien pour la ventilation de l'animal, mais c'est aussi très bien pour les bâtiments. Et il l'a prouvé avec un bâtiment au Japon qui brasse de l'air comme ça grâce à ses lignes noires et blanches.
Voilà, Gunther Paoli, vous pouvez le chercher sur internet, trouver sa fondation Zeri. Il y a plein d'idées hyper innovantes à découvrir. Voilà, tout cela et bien d'autres articles sont à lire dans le Terra et Eco datée de janvier ou à retrouver sur Internet sur le site www.terraeco.net. Merci François Meurice.
Merci à vous. I'm gonna be the biggest monkey. I'm gonna be the biggest monkey of them all. I'm gonna be the biggest monkey. I'm gonna be the biggest monkey of them all.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison. Constance Cluzet de l'ONG Calaouette nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez avec Shani qui a créé cette association pour défendre les gibbons d'Indonésie en 1998 et nous l'avons reçue à plusieurs reprises, ouais. Shani, dans C'est pas du vent. Alors le travail sur le terrain continue?
Oui, ça continue, se passe plutôt bien, les nouvelles sont globalement bonnes. Là on va relâcher 7 familles de Siamang dans un parc national de Sumatra, c'est une
les
grande
Siamang,
première.
Ce sont...
Siamang, ce sont des gibbons, c'est une espèce de gibbon, c'est le plus grand des gibbons et on le trouve qu'à Sumatra. Donc ça c'est très important pour nous et on est ravis. L'année dernière on avait entamé la construction de 2 nouveaux sanctuaires, y compris de nouvelles cliniques. Ce sont des choses qui se sont faites, maintenant on est totalement opérationnel et on continue notre travail de préservation des réserves à Bornéo et Sumatra et c'est là où maintenant on met beaucoup plus d'énergie.
Et de sensibilisation, parce qu'on le rappelle, il y a une radio qui permet donc aux personnes qui les entendent par exemple de signaler un gibbon qui a été capturé pour que on vienne le libérer. Et puis après, il y a tout un travail donc de réintégration de ces gibbons dans les forêts ou dans les parcs nationaux, comme vous le disiez. Et pour augmenter le terrain d'action, depuis fin septembre, vous proposez à tous ceux qui le souhaitent de vous aider à acheter 200 hectares de forêt situés à 2 heures de route, hein, à l'est de Padang.
Voilà. En fait, c'est une opération qui avait été commencée en 2011, où on avait pu acheter 99 hectares de forêt grâce à l'aide de donateurs et de fondations et d'associations. Il faut savoir que c'est très compliqué d'acheter de la forêt en Indonésie, c'est même quasiment impossible. J'explique rapidement pour les auditeurs. La forêt est destinée aux compagnies forestières. C'est la loi, c'est comme ça. Donc les compagnies forestières s'installent, coupent le bois et après ça passe aux compagnies d'huile de palme. Ça se passe comme ça dans les faits. Et là où on peut acheter de la forêt, c'est uniquement après le passage des compagnies forestières et des compagnies d'huile de palme. Donc vous imaginez qu'il ne reste plus rien. Dans le cas de cette forêt à Supayang, la zone qu'on peut acheter, la situation est la même, c'est-à-dire que la forêt est passée par les différentes étapes, mais n'a globalement pas été touchée. Il y a juste les villageois qui ont prélevé un peu de bois.
Parce qu'elle est située en hauteur, difficilement
exploitable. Elle est un peu plus haute et elle est un petit peu accidentée, donc c'est vrai que ça intéresse moins les exploitants pour l'instant. Et donc ce qui fait qu'elle est restée globalement bien préservée. On y trouve des animaux, enfin une biodiversité extraordinaire, alors évidemment des siamangs qui sont donc des gibbons, des ours, des tapirs asiatiques, une espèce très rare, des tigres, des chats dorés sont aussi des animaux très rares. Enfin il y a une biodiversité qui est vraiment magnifique et qui pour nous est très importante aussi de protéger.
Alors comment on fait si on a envie d'investir dans ces hectares de forêt?
Alors effectivement, si on peut investir, c'est-à-dire aider Calaouette à financer l'acquisition de cette forêt. Nous, on a mis en place quelque chose de très simple. Il suffit d'aller sur notre site internet, vous cliquez sur la boutique en ligne et on propose, ce petit clin d'œil, aux gens d'acheter un bout de forêt. Alors, on propose par exemple d'acheter 100 mètres carrés de forêt pour 11,50 €. Et en échange, évidemment, c'est considéré comme un don, donc les donateurs auront un reçu fiscal, mais vous recevrez aussi un certificat de propriété symbolique avec votre nom, la somme mise, le nombre d'hectares, la somme en roupies, voilà, petit clin d'œil qu'on fait aux donateurs et qui est très très importante pour Calaouette. Il faut bien comprendre que c'est une opération qui est quand même rare et on a vraiment vraiment besoin de soutien.
Donc voilà, si vous n'avez pas terminé vos cadeaux de Noël, voilà, vous pouvez offrir 100 mètres carrés de forêt en Indonésie.
Ou plus.
Ça change un peu. Ou plus.
Voilà. Voilà.
Vous redonnez l'adresse de votre site?
Alors l'adresse du site, c'est www.calaouette.org. Vous cliquez sur la boutique en ligne ou vous contactez Calaouette tout court. Et moi, je ferai un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne.
Voilà. Merci beaucoup, Constance Cluzet, d'être passée dans C'est pas du vent. Restez sur RFI. De toute façon, vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans quelques minutes, juste après le flash d'info, Thomas Lepelletier, historien et philosophe des sciences, nous expliquera pourquoi la révolution végétarienne arrive. À tout de suite.